France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les débuts de Joséphine Baker, première partie. L'entrée prochaine au Panthéon de Joséphine Baker est un événement salué par tous les médias qui relève presque de l'éducation civique. Il ne faudrait donc pas oublier de prononcer son nom à la française, selon son souhait de femme naturalisée en 1937, qui aimait passionnément son pays d'adoption. Au point d'avoir combattu pour soutenir la France libre durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a finalement valu la Légion d'honneur à titre militaire. Elle a en effet trouvé chez nous l'accueil d'une nation qui ne pratiquait pas de discrimination raciale, comme aux États-Unis, et où elle se sentait libre. Dans cette archive de 1951, elle répond en compagnie de son mari, le chef d'orchestre Joe Bouillon, à un jeune journaliste mal informé, et met gentiment les points sur les i.
Pas trop fatiguée, Joséphine Baker, de cette tournée triomphale aux États-Unis.
Je m'excuse, mamie. Qu'est-ce que vous avez dit, Baker?
Baker.
Non.
Ah, comment dit-on?
Baker.
Alors, Baker, pardon.
Merci pour le Baker, mon chéri.
Précédant ces combats des années 40 à 70 contre le racisme, il y a eu avant la guerre une artiste de music hall qui a électrisé le public par sa silhouette exotique, sa jeunesse dévergondée et la nouveauté de ses danses syncopées, en particulier le charleston. Et puis, en quelques années, Joséphine Baker a appris à devenir une vraie meneuse de revue, capable de tenir l'affiche des Folies Bergères du Casino de Paris au même rang qu'une Miss Tinguette. Sa voix cristalline, assortie d'un léger accent, a laissé de très beaux enregistrements des chansons tirées de ses spectacles. C'est cette première Joséphine que je vous propose de redécouvrir durant cette série d'émissions. En suivant le chemin qu'elle-même a tracé dans un magnifique spectacle signé André Levasseur, donné à Bobineau en avril 1975, pour célébrer ses 50 ans de carrière à Paris. Elle a donné une fois encore le meilleur d'elle-même pour le préparer, mais elle est allée au bout de ses forces et cela lui a été fatal, puisqu'elle a été terrassée par une congestion cérébrale quelques jours après la première.
Me revoilà Paris, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Me revoilà Paris, dis-moi comment me trouves-tu. J'ai peut-être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je flanche. Et peut-être, qui sait, je finirai ma vie sur les planches. Rappelle-toi Paris, quand j'ai chanté j'ai deux amours, j'avais fait le pari que cela durerait toujours. Tous ces je n'oublie pas que c'est grâce à toi si j'ai vu les vedettes et si j'ai vu mon nom sur les néons de chaque nation.
Joséphine Baker était donc de retour à Bobineau en 1975 avec un spectacle créé l'année précédente au Sporting Club de Monte-Carlo qui évoquait ses 50 ans de carrière. En réalité, il remontait même quelques années plus tôt, lors de ses débuts à Broadway, avec Shuffle Along, le spectacle qu'il a vu débuter en 1921 à l'âge de 15 ans. Joséphine est née en juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, d'une mère noire et d'un père blanc, eux-mêmes artistes. Élevée par sa grand-mère et sa tante, Joséphine devient une enfant des rues. C'est là qu'elle apprend à danser. Rêvant de spectacle, elle danse aussi à l'église et gagne son premier cachet dans un concours de cakewalk. Durant l'été 1917, de violentes émeutes raciales ont lieu dans la ville de Saint-Louis, un épisode tragique que Joséphine n'oubliera jamais. À 12 ans, elle vit de petits boulots et apprend à jouer du trombone avec les musiciens ambulants du Jones Family Band.
Thank you.
En 1919, Joséphine va très souvent voir la troupe de théâtre de vaudeville Dixie Steppers de passage à Saint-Louis. Elle tente sa chance auprès du directeur Bob Russell et finit par obtenir un engagement comme figurante. Lorsque la troupe quitte la ville, Joséphine la suit sans prévenir sa famille qui ne s'en émeut guère. Au cours d'une longue tournée dans le sud des États-Unis, elle se forge un style en faisant des grimaces et en roulant des yeux. Mais à la fin de la tournée, la troupe finit par être licenciée. Restée à Philadelphie, Joséphine épouse un jockey noir, Willie Baker, dont elle divorcera secrètement 15 ans plus tard. Au Dunbar, le théâtre noir de Philadelphie, elle admire le spectacle Shuffle Along, monté par Noble Cecil et Ubi Blake. Elle demande à être engagée comme danseuse, mais elle est trop jeune. Elle décide alors de tenter sa chance à New York et tombe sur un théâtre de la 63e rue dont l'affiche présente à son tour, depuis le mois de mai 1921, Shuffle Along. Joséphine harcèle la production pour être engagée dans la seconde troupe du spectacle destiné à la province. On ne lui propose qu'un rôle d'habilleuse, jusqu'au jour où elle remplace au pied levé l'actrice malade dans le rôle de Funny Girl, la petite qui louche et amuse le public. Le manager du spectacle, Al Meyer, finit par l'engager à l'été 1922 dans la troupe de New York aux côtés de Noble Cecil, Ubi Blake et Florence Mills.
Première musical comedy à Broadway, avec les artistes entièrement noirs. Miller and Lyle, Cecil and Blake, quand ils chantent, tous les soirs, je les entends avec tant plaisir et admiration. J'adore quand ils disent, for I'm just wild about Harry, Harry's wild about me. The heavenly blisses of his kisses fills me with ecstasy. He's sweet as chocolate candy, sweet as honey from the bee. For I'm just wild about Harry, and he's just wild about Kentucky. He's just wild about me. La-di-gee, la-di-gee, quelle merveille, quelle chanteuse extraordinaire, elle chante d'amour. Et naturellement, elle est amoureuse. Autrement, elle ne pouvait pas chanter aussi bien, j'en suis sûre. Je l'entends avec tant de plaisir. Love will find a way. Though skies thou are gray, my dearie, mark what I say, my dearie, mark what I say. Love will find a way.
Repris par Joséphine Baker lors de son spectacle à Bobino en 1975, nous venons d'entendre I'm Just Wild About Harry et Love Will Find a Way, les deux principaux airs de Shuffle Along, le spectacle qu'il a vu débuter à New York en 1922. Première production de Broadway montée par une troupe entièrement composée d'artistes noirs, cette revue signée Noble Cecil pour les lyrics et Ubi Blake pour la musique constitue une date dans l'histoire du théâtre musical afro-américain. En juillet 1922, Maurice Chevalier effectue un voyage d'études à New York avec Miss Tinguette, son ancienne partenaire et maîtresse, en vue d'une éventuelle reprise outre-Atlantique de l'opérette Dédé qu'il a triomphalement créée à Paris 8 mois plus tôt. Il se lance donc dans une découverte des musicals et des artistes américains. Sa première visite est pour le théâtre de la 63e rue où se joue Shuffle Along, dont le succès avait déjà eu des répercussions à Paris. Maurice livrera dans ses mémoires ses impressions. Cela ne s'arrêtait pas. Trépidant, dynamique, incessant, le rythme ne permettait même pas aux artistes de saluer après un numéro réussi. Tout s'enchaînait dans une ronde endiablée. Parmi les girls qui étaient représentées par de jeunes danseuses noires, je remarquai une dont le corps, presque nu, avait d'étranges attraits. Son visage convulsé, contorsionné, avait soudainement des détentes ravissantes. Sur le programme, son nom, mélangé à ceux des autres danseuses, était Joséphine Baker. Quelques années plus tard, elle devait conquérir Paris par ces mêmes qualités qui me l'avaient fait remarquer ce soir-là, au milieu des Colored Girls. dépassant les 500 représentations, Shuffle Along lance la carrière de plusieurs artistes. Josephine Baker, Adelaide Hall, Florence Mills et Paul Robeson. La troupe part ensuite en tournée à travers l'Amérique durant plus d'un an. Puis à l'automne 1924, Josephine Baker joue dans Chocolate Dundies, des mêmes auteurs, Noble Cecil et Hubie Blake, donné au New Colonial Theatre de New York, et paraît cette fois au devant de la scène. Moins durable que Shuffle Along, puisqu'elle ne tiendra l'affiche que durant 3 mois, cette nouvelle production d'une troupe noire séduit néanmoins les critiques qui relèvent son caractère extrêmement pittoresque. Le nom de Chocolate Dandies sera d'ailleurs repris par différents orchestres noirs de jazz américain des années 20 aux années 40. Son succès vaut à Joséphine d'être engagée quelques mois plus tard au célèbre cabaret The Plantation aux côtés de son idole Ethel Waters, que voici dans un de ses succès de 1925, Sympathetic Dan.
He's Sympathetic Dan, that tender-hearted man, does everything he can to please a girl. Put him among the skirt, he gives until it hurts, and any widow dressed in black can take his shirt right off his back. He's kind-hearted, like a little child. He's so kind-hearted to women who are wild. The lonesome mama states, he sympathizes great. What a soothing man is Sympathetic Dan.
C'est dans ce cabaret de New York, The Plantation, que Josephine Baker, à peine âgée de 19 ans, est remarquée par Caroline Dudley. Riche américaine francophile, originaire de Chicago et passionnée de musique de jazz, cette dernière cherche des artistes pour une production destinée au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Ce célèbre établissement de l'avenue Montaigne, inauguré en 1913, a connu des soirées tumultueuses comme celle de la création du Sacre du Printemps de Stravinsky. Il a été repris en 1925 par le mécène Rolf de Marais, qui a lancé depuis le mois d'avril la formule du Champs-Élysées Music Hall, avec une affiche renouvelée tous les 15 jours, où il présente des programmes éclectiques d'attractions mêlés de tours de chant, de danse et de scènes de théâtre. Mais les recettes ne suivent pas, et le directeur du théâtre, André Davenne, s'est laissé persuader par le peintre cubiste Fernand Léger de présenter un spectacle d'artistes noirs. C'est alors qu'a surgi peu après dans son bureau Caroline Dudley pour lui proposer justement de produire une telle revue. Et Davenne lui a donné carte blanche. Elle s'est donc rendue à New York afin de constituer sa troupe. Convaincre des artistes afro-américains de traverser l'Atlantique vers un pays dont ils ne parlent pas la langue n'est pas si aisé. Mais chez Joséphine, il n'y a guère d'hésitation, comme elle le racontera à la radio en 1953.
Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux, et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur.
Mais qu'est-ce qui vous avait décidé à quitter l'Amérique du Nord et à traverser l'Atlantique?
Eh bien, monsieur, parce que je savais, par mes parents qui sont de la Martinique d'origine, qu'en France, j'aurais la liberté d'esprit et de corps.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
La troupe de 25 artistes afro-américains, vêtus de tenues bigarrées, 13 danseurs et 12 musiciens, débarque à Cherbourg le 22 septembre 1925. Elle est accueillie à la gare Saint-Lazare par la direction du Théâtre des Champs-Élysées, qui les conduit sans tarder avenue Montaigne. Au bout de 2 jours de répétition, Rolf de Marais et André Davenne ne sont pas convaincus. Malgré les nombreux talents de la troupe, le spectacle manque de construction et n'est pas présentable. Ils font alors appel à leur ami Jacques Charles, concepteur renommé de revues pour le Casino de Paris et le Moulin Rouge, qui accepte de collaborer sans que son nom apparaisse. Celui-ci décide de mettre Joséphine en avant et lui demande de danser nue. Il faut beaucoup de persuasion de l'équipe, notamment le danseur-chorégraphe Louis Douglas, pour la convaincre. Joséphine s'en souviendra en compagnie de son ami biographe Marcel Sauvage lors de la sortie de la deuxième version de ses mémoires en 1949.
Ah oui, c'était une époque merveilleuse, tu t'en souviens, José?
Oh, je pense bien.
Parce qu'à ce moment-là, il y avait Paul Colin, Je te vois encore jouer sur la scène des Champs-Élysées. Parce que tu as été immédiatement, tu as attiré l'attention immédiatement, et Paul Colin, je m'en souviens fort bien, m'a dit, mais elle est extraordinaire cette danseuse, il faut absolument qu'on la sorte, qu'on fasse un grand personnage parisien, car Paul Colin a joué un rôle considérable dans
je
ta carrière.
Je pense bien. Et tu te souviens aussi que, oh, le grand scandale dans notre troupe, parce que Colin l'a dit, en fait, déshabillez-vous, petit à petit. Et parce qu'il voulait me dessiner, vous vous souvenez?
Oui, c'était...
Et alors, toutes les filles disaient, enfin, toutes nues, qu'est-ce que ça veut dire? C'est scandaleux, etc. L'autre, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on me fait de moi? Et je n'ai jamais rêvé que, pourquoi que les gens puissent trouver enfin, des gens, enfin, tas de petits endroits de mon corps intéressants.
Tandis que maintenant, comment? Mais si, je proteste alors. Tandis que maintenant, tu es habillée d'une façon magnifique, évidemment, le personnage a changé du
moi,
tout au tout.
Moi, j'aime mieux ça.
Paul Colin, alors jeune peintre qui travaillait pour le Théâtre des Champs-Élysées dans sa formule musicale, racontera volontiers par la suite ce que la Revue Nègre a apporté à sa carrière d'affichiste et de décorateur, comme ici en 1968 sur France Inter.
J'ai fait l'affiche de la Revue Nègre. C'est la première qui a été imprimée, car je faisais des affiches qui étaient exposées à la porte du théâtre, qui n'étaient pas imprimées. J'en faisais 12 par mois pour la porte du théâtre. Et alors, ma première affiche imprimée, c'est l'affiche de Joséphine qui a, je dois dire, été pour moi un point de départ fulgurant parce que c'était l'apparition du jazz. On était pour ou on était contre. Il faut dire qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient pour que contre. Mais il y a eu des claquements de porte. Enfin, il y a eu des révoltes dans le théâtre.
À ce point,
ah oui, à ce point. Et à l'orchestre, il y avait Sidney Bechet d'ailleurs. La vedette, c'était Maud de Forest. Et en réalité, Joséphine était girl et influencée par nous autres, et un peu par moi d'ailleurs, car je l'avais eue chez moi, où elle était venue poser pour son affiche. Nous avions influencé l'impresario pour lui dire, mais cette noire, qui est peut-être belle, qui avait un corps sculptural, aura beaucoup plus de succès que la vedette réelle qui ne chantait que des spirituels. Alors on a fait travailler le rôle de vedette à Joséphine. On a organisé une grande soirée, plutôt une nuit, pour avoir tous les gens de théâtre à 1h du matin. Et le lendemain, après la fête, et unanimement dans la presse, les journalistes disaient « La Vénus noire est à Paris », c'était Joséphine. C'était le départ de Joséphine, et grâce à son affiche, c'était aussi le mien.
Il faut tout de même préciser que cette fameuse affiche a été inspirée à Paul Colin par les maquettes du peintre Miguel Covarrubias, lequel a été recruté par Caroline Dudley à New York pour exécuter les décors de la Revue Nègre. La Générale pour la presse et les personnalités parisiennes est organisée le 28 septembre 1925 à minuit, suivie d'un grand bal mondain avec les artistes de la troupe. La première représentation pour le grand public a lieu le vendredi 12 octobre. Fidèle à l'esprit des spectacles de music-hall de l'époque, la première partie du programme voit se succéder une dizaine d'attractions diverses qui vont changer au fil des semaines. Le fantaisiste Saint-Granier, le danseur suédois Jean Borlin ou la chanteuse réaliste Damia. Joséphine regarde d'ailleurs ces numéros avec fascination, cachés dans le rideau de scène afin de connaître les artistes européens. Enfin arrive la seconde partie de soirée, à 22h30, avec la Revue Nègre qui va durer près d'une heure. Le premier tableau, intitulé « Mississippi Steamboat Race », présente successivement plusieurs chansons dans un décor de nuit avec des bateaux à vapeur et des hommes assis sur le quai prêts à charger des balles de coton. Joséphine participe à certains numéros comme « Boodle Ham » avec « Honey Boy » et les « Charleston Steppers ». En voici l'enregistrement réalisé quelques mois plus tard par son créateur, l'orchestre noir de Clarence Williams.
Thank you.
toujours dans ce premier tableau de la Revue Nègre, consacré aux échos du Mississippi, Marion Cook chante ensuite le célèbre Swanee Weaver. Puis c'est Maud de Forest, la chanteuse de blues habituée des scènes new-yorkaises, initialement prévue comme vedette du spectacle, qui entre en scène pour interpréter Everything My Sweetie Does. Faute de traces sonores de cette chanson, je vous propose de découvrir la voix prenante de Maud de Forest dans Roaming Blues, une des quatre seules phases de 78 tours qu'elle ait jamais enregistrée, publiée en 1923, où elle est accompagnée au piano par Fletcher Anderson.
I came to this town 1 year ago, all out and down, the ground full of snow. My man has quit me, that's why I want to go. I've got the roaming blues, I've got the roaming blues, I want to roam away from here.
Ce long tableau d'introduction sur le Mississippi amène ensuite sur scène Joséphine Baker, se dandinant, les genoux écartés, portant des vêtements en lambeaux, pour interpréter « I want to yodel ». C'est d'ailleurs le seul moment du spectacle où elle chante. Par chance, ce titre figure parmi les toutes premières phases de 78 tours qu'elle gravera chez Odéon en septembre 1926. Il s'agit encore d'un enregistrement acoustique, donc effectué sans microphone, mais il est très précieux. Parmi les spectateurs de ces soirées passionnantes se trouvent souvent Darius et Madeleine Millot, mariés depuis peu. Cette dernière racontera ses souvenirs sur France Musique en 1988.
Moi, je n'ai vu que la Revue Nègre, qui était extraordinaire. C'était l'arrivée de Joséphine Baker à Paris. Ah, ça, c'était étonnant. C'était au Théâtre des Champs-Élysées. Nous sommes allés tous les soirs. Bon, nous sortions, nous allions dîner chez des amis. Nous sortions tôt, nous nous regardions et on filait la Revue Nègre. C'était pas une très grande compagnie. Ça avait été monté par deux dames de Chicago qui avaient beaucoup de goût. Je pense que c'est une des premières fois où on assistait à des spectacles de claquettes aussi. Et puis, il y avait Joséphine Baker. On peut pas imaginer ce que cette femme... On pouvait même pas l'appeler une femme, en fait. Ce que ce personnage était à cette époque-là. Un corps d'acier huilé, aussi belle qu'une statue grecque. Elle incorporait la jeunesse, la force et une voix d'oiseau. Un visage, les yeux écarquillés comme en Gollywog, ses accroche-cœurs collés contre les tempes, incroyable. Elle n'était pas très loin de l'affiche de Colin que l'on connaît. Elle dansait, elle chantait de cette petite voix aiguë, extraordinaire. Et puis, elle savait jouer, comme les nègres savent, de ses yeux écarquillés, évidemment, de tout ce que l'on peut critiquer chez eux ou ridiculiser, qui devenait chez elle tout d'un coup un art.
Like a clown.
Les tableaux suivants de la Revue Nègre évoquent notamment les gratte-ciel de New York dans un beau décor de Covarrubias, puis un rassemblement au camp de la Louisiane. Tous ces tableaux, censés évoquer la vie noire en Amérique, alternent chant et danse excentrique. Joséphine Baker et le danseur de claquettes Louis Douglas y occupent des places de choix avec des numéros en solo. Le septième et dernier tableau, intitulé Charleston Cabaret, est un grand final dédié aux danses de Harlem menées par le Charleston Jazz Band. Ces six musiciens, parmi lesquels figure Sidney Bechet, sont dirigés par le pianiste Claude Hopkins, le directeur musical de la revue, surnommé Crazy Fingers, les doigts fous. Ce final comprend six numéros, exécutés tour à tour par les Charleston Steppers et les différentes vedettes de la revue. Joséphine Baker y danse Give Me Just a Little Bit et surtout le numéro de la danse sauvage avec Joey Alex, suggérant un accouplement. On en connaît juste une photo montrant Joséphine quasiment nue, perchée sur le dos de son partenaire, agitant les jambes. Elle porte une simple culotte de satin, une ceinture de plumes, ainsi qu'un col de plumes et des bracelets de plumes aux chevilles. Je vois vos froncements de sourcils, mais patience. La ceinture de banane, ce sera pour la prochaine émission. Une fois déposée par son partenaire, Joséphine exécute un genre de danse du ventre qui provoque des remous parmi les spectateurs. Certains sont choqués et quittent la salle. Faute d'enregistrement réalisé à cette époque par l'orchestre de Claude Hopkins, voici un titre gravé en janvier 1925 par celui du pianiste Clarence Williams, dont faisait partie Sidney Bechet au saxophone soprano et Louis Armstrong à la trompette.
Est-ce que vous vous souvenez des réactions du public au cours de ces premières, de la présentation de ces premières représentations de la Revue Nègre, puisque vous apportiez une espèce de petite révolution, en tout cas la découverte du jazz et du style New Orleans, n'est-ce pas, d'Armstrong? Je sais que tout de suite vous avez eu un public tout à fait fanatique, et puis aussi probablement qu'il y a eu des gens enfin qui réprouvaient un petit peu, qui étaient hostiles, qui s'écartaient de cette nouvelle forme d'art et de ce rythme entièrement nouveau.
Bien sûr, monsieur, vous avez compris bien la situation. Du reste, mon premier soir, je ne savais pas si j'avais du succès ou pas, parce que les gens, la moitié de la salle criait « embossés ». Et j'avais su après que c'était ça qu'ils disaient. Et les autres, les jeunes, les étudiants et toutes les jeunes gens criaient « succès ». Et ceux qui sifflaient, j'avais cru, moi, que c'était du succès. Et après, j'ai compris que c'était de catastrophe. Et ceux qui combattaient, qui criaient « bravo », c'était des jeunes, parce qu'eux trouvaient que c'était nouvel style.
La Revue Nègre est donc un choc pour le public qui fréquente le théâtre des Champs-Élysées. Débutée le 2 octobre 1925 et prévue initialement pour deux quinzaines, elle sera prolongée jusqu'à la fin novembre, puis au Théâtre de l'Étoile en décembre. Après quoi, elle partira en tournée à Bruxelles, puis à Berlin, où elle fera tout autant sensation. Mais avant son départ, Joséphine est repérée par Paul Derval, le directeur des Folies Bergères, qui tient à faire d'elle la vedette féminine de sa future revue du printemps 1926 et lui fait signer un contrat d'engagement. Après le public choisi du Théâtre des Champs-Élysées, il s'agira cette fois de la faire connaître à un public plus large. C'est ce que nous verrons dans la prochaine émission. Pour en savoir plus sur la vie de Joséphine Baker, vous trouverez des recommandations de publication sur le site francemusique.fr. Tour de chant, une émission de Martin Penet, avec le concours de Barbara Alota à la préparation, Valérie Lavalard à la technique, Olivier Guérin à la réalisation, Marie Chauveau pour les archives de l'INA. Merci à Gérard Bonal et Christophe Mirambeau.
À réécouter sur francemusique.fr.